Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc après cette grosse journée bien dense en échange, merci d'avoir encore d'être là encore pour la plénière. Alors en fait, à la fin de la plénière de ce matin, était interrogée la question des rapports sociaux, de sexe, d'âge, de territoire, de milieux sociaux, avec une dernière question qui permettait quand même de faire le lien entre la plénière de ce matin et la plénière de ce soir. La plénière de ce soir pourra en partie permettre d'éclairer certains enjeux pour une sociologie de la jeunesse et une sociologie du genre. Pour ça, trois sociologues ont été invités. Alors ils disposent chacun d'une vingtaine de minutes. J'ai le mauvais rôle de devoir les chronométrer et de leur lancer des petits papiers. Non, on ne s'écrira pas des petits papiers pour se dire des trucs, mais ça sera surtout pour leur donner le temps. Donc vous verrez leur tête s'ils dépassent leur temps. Donc voilà. Suivra ensuite, autant qu'on peut, une discussion avec la salle. Mais vu qu'on va se revoir demain et qu'on se reverra sûrement pour partie ce soir, voilà, les discussions sont amenées à pouvoir être poursuivies au fil du colloque. Donc tout d'abord, Isabelle Claire, chargée de recherche CNRS rattachée à l'IRIS, a travaillé antérieurement sur deux enquêtes ethnographiques auprès des filles et des garçons vivant en cité d'habitat social et en milieu rural. Et elle entame aujourd'hui une troisième enquête dans les quartiers bourgeois situés à Paris et dans une ville de province dont on taira le nom, comme toute règle sociologique le mérite. Et viendra discuter des enjeux et des usages de l'insulte sexiste et homophobe en empruntant au lexique sexuel par les filles et par les garçons. Peut-être je te laisse la parole. Ensuite interviendra Nicolas Renaï, puis Vulca Fidolini, que je présenterai chacun tour à tour avant leurs interventions. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Merci Yaël, merci aux organisatrices de ces rencontres, de m'avoir conviée à cette plénière. Alors, je travaille, comme le disait Yael, je travaille depuis 2002 sur l'entrée dans la vie amoureuse des jeunes en France. J'ai réalisé donc principalement deux enquêtes ethnographiques sur le sujet. L'une entre 2002 et 2005 dans quatre cités d'habitat social de la banlieue parisienne. Et la seconde entre 2008 et 2011 dans des villages situés dans la Sarthe. J'ai donc commencé une troisième enquête qui va me permettre de cesser de parler seulement des jeunes des classes populaires et dès lors, notamment, de mieux saisir ce qui leur est spécifique. Cette enquête, toujours autour des mêmes questions et au moyen des mêmes méthodes, se déroule dans le 17e arrondissement parisien, auprès de jeunes élevés dans la bourgeoisie progressiste. Je reprends cette catégorie à Sylvie Tissot, qui va très très bien à ce quartier, et très bien à mon objet. J'espère pouvoir prolonger cette enquête dans les années à venir, au sein du même groupe social, mais dans une ville de taille moyenne située en province. Pour aujourd'hui, je vais m'en tenir aux enquêtes terminées, qui se sont donc déroulées dans deux fractions des classes populaires françaises contemporaines, racisées et situées en milieu périurbain pour la première, majoritairement blanches et situées en milieu rural pour la seconde. Dans les deux cas, les jeunes que j'ai rencontrés étaient des filles et des garçons impliqués dans des relations amoureuses hétérosexuelles. Ils et elles avaient entre 15 et 20 ans au moment de chaque enquête, et leurs parents étaient ouvriers, employés ou petits agriculteurs, en emploi ou non. Eux-mêmes étaient le plus souvent scolarisés dans des filières courtes, CAP, BEP, ou bien se trouvaient sur le marché du travail, dotés de peu ou de pas de diplôme. Alors comme il n'est pas possible évidemment de rendre compte de la totalité de deux enquêtes en 20 minutes, j'ai décidé de centrer mon propos sur une pratique sociale très circonscrite, mais largement à l'œuvre sur mes deux terrains. Je me centrerai sur l'analyse de ce que font filles et garçons quand elles et ils prononcent des insultes sexistes et homophobes empruntant au lexique sexuel. Les insultes sexuelles qui sont adressées aux filles prendront plus de place dans mon exposé, puisque partant de l'ensemble des insultes sexuelles, je me centrerai progressivement sur ce que font les filles quand elles s'insultent mutuellement. J'ai fait ce choix restreint parce que c'est un des fils rouges de mon travail depuis ma première enquête et parce qu'il permet d'aborder une question qui traverse plus généralement les recherches sur le genre, celle de savoir comment s'opère l'identification à un genre et un seul en opposition à l'autre et en quoi ce processus d'identification renseigne sur les hiérarchisations à l'œuvre dans chaque groupe de sexe. Alors je vais dans un premier temps préciser certains aspects du cadre théorique qui sous-tend mon travail, puis je m'efforcerai de montrer en quoi ce cadre est utile pour l'étude des rapports hiérarchiques au sein des groupes de sexe, et notamment au sein du groupe social des filles. Alors comme d'autres personnes, je pense, dans cette salle, je me situe au croisement principalement de deux courants théoriques pour ce qui est du genre, l'un qui envisage la construction et les manifestations du rapport social de sexe. Ce premier courant est incarné en France essentiellement par une sociologie féministe d'inspiration marxiste ou matérialiste qui se centre sur l'antagonisme entre les groupes de sexe, en articulation plus ou moins accentuée avec la classe et la race. L'autre courant théorique auquel je me réfère, et auquel je me référerai évidemment dans cet exposé, est hérité de la critique queer adressée à la théorie féministe. Cette critique interroge notamment le processus discursif à l'œuvre jusque dans la théorie féministe, qui fait advenir des groupes de sexe selon un binarisme morphologique qui irait de soi. Cette critique m'a été utile pour deux principales raisons, que je vais expliciter très rapidement, tant les ponts avec la pratique sociologique d'une part et d'autres traditions féministes françaises d'autre part, les ponts de cette critique avec ces deux branches-là, la sociologie et le féminisme, ne sont pas évidents. Alors, cette théorie m'a été utile tout d'abord parce qu'elle permet de penser le genre en lien avec la sexualité au travers du concept d'hétéronormativité ou de normes hétérosexuelles. La déconstruction de la croyance sociale partagée jusque dans la recherche sur le genre selon laquelle au sexe des personnes correspondrait ou devrait correspondre un seul genre et une seule sexualité met au jour le rôle de la hiérarchisation des sexualités dans la production du genre. L'hétéronormativité, qui prend forme dans une coïncidence entre sexe, genre et sexualité, et se révèle lorsque la dissonance, ou le trouble, selon le titre célèbre, surgit pour faire éclater la coïncidence, m'a ainsi permis de comprendre sur mes terrains ce que signifiait d'être perçu et de se percevoir comme un vrai garçon, une vraie fille, un garçon incarnant une masculinité crédible, une fille incarnant une féminité vertueuse, ainsi que tout ce qui empêchait de se voir reconnaître ses qualifications positives. Les groupes de sexe et les asymétries qui existent entre eux et en leur sein sont en partie produits par la norme hétérosexuelle. C'est ce que j'essaierai de montrer pour partie dans le reste de mon propos. Ensuite, un autre aspect qui me semble important est le fait que penser l'identification à un genre en termes d'assujettissement, comme le fait Butler dans les pas de la conceptualisation foucaldienne du pouvoir, met l'accent sur la nécessité, pour se voir reconnaître une existence sociale, de se faire fille ou garçon, femme ou homme, au risque d'être exclu de l'humanité, d'apparaître monstrueux si l'on ne met pas en scène un genre et une sexualité clairement identifiables. Ce qui ne signifie pas qu'on puisse choisir librement d'être un homme ou une femme, comme on le dit parfois à propos des travaux de Judith Butler notamment. Il ne s'agit pas dès lors, comme dans d'autres cadres théoriques qui font partie des conceptualisations actuelles du genre, de se demander pourquoi les personnes identifiées et s'identifiant comme des femmes ou des filles participent d'un ordre social qui les opprime, mais de chercher à comprendre comment elles se rendent plus ou moins intelligibles au regard des normes de genre et de sexualité et comment elles résistent ou non à l'assujettissement. À cet égard, les mots qui les désignent et par lesquels elles se désignent elles-mêmes, y compris les mots injurieux, sont importants. Ils peuvent être compris comme des actes d'assujettissement qui font exister en même temps qu'ils soumettent, qui font mal en même temps qu'ils rendent leur cible intelligible et qui inaugurent une réalité plutôt qu'ils ne décrivent une réalité préexistante. L'étude de l'insulte sexuelle, telle qu'elle est utilisée par les jeunes, fait écho à ces deux éléments. En tant qu'acte de discours, l'étiquetage sexuel ne fonctionne pas nécessairement comme une sanction d'acte transgressif, mais d'abord lui-même comme un acte performatif qui fait exister ce qu'il feint de décrire. Par ailleurs, l'insulte sexuelle condense avec une grande efficacité le lien spécifique qui existe entre genre et sexualité. En donnant forme à la déviance sexuelle, l'insulte sert à classer les individus dans l'ordre du genre, les filles par rapport aux garçons, plus encore les garçons par rapport aux filles, et chacun et chacune dans son propre groupe de sexe. Elle est d'autant plus accessible à l'analyse qu'elle a fréquemment été utilisée par les jeunes dans les espaces que j'ai pu enquêter, principalement les espaces familiaux et les espaces publics, et que son usage public est peut-être moins inhibé au sein des jeunesses populaires, y compris de la part des filles, que dans d'autres classes sociales. Alors je vais désormais essayer d'incarner tout ça un peu plus précisément à partir de mon travail d'enquête. Les figures de la pute et du PD, pardon, je vais dire des mots comme ça, pas mal. Ça va biper sur la vidéo. Les figures de la pute et du PD, très présents dans les propos des jeunes que j'ai rencontrés sur mes deux terrains, révèlent l'existence d'une ligne de sexualité qui traverse les groupes de sexe, à l'origine de divers classements en leur sein. Prétendue comme allant de soi, l'identification à un groupe de sexe requiert en réalité des garanties et les jeunes doivent faire la preuve qu'ils sont bien des filles ou des garçons. Et d'abord pour les filles, des filles bien, et pour les garçons, des vrais garçons. Si ces deux figures sont comparables, en ce qu'elles agissent chacune dans un groupe de sexe, à la croisée du genre et de la sexualité, et en ce qu'elles incarnent des figures repoussoires de ces groupes de sexe, en revanche, elles se manifestent de façon asymétrique, à deux égards. La suspicion pesant sur les garçons concerne leur conformité à la binarité du genre, la figure du PD qui renvoie tout autant aux pratiques homosexuelles qu'aux défauts de virilité, la normalité sociale se mesurant, je le disais plus tôt, à la coïncidence entre sexe, genre et sexualité, fonde les jugements sur la crédibilité sexuelle des garçons. Je vais moins vite. Donc ça, c'était pour le PD chez les garçons. Mais je vais revenir, je vais le dire plein de fois, de plein de façons différentes. La figure de la pute, elle, sanctionne le défaut d'appropriation privée du corps des filles, au sens que Colette Guillaumin donne à cette notion d'appropriation des corps, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'elle, contrairement aux garçons, qu'elle soit à 100% des filles en toutes occasions, et il peut être positif pour elle d'endosser des attributs masculins, ce qui est moins le cas pour les femmes plus âgées. En revanche, elles doivent se défendre d'une appropriation collective de leur corps au risque de passer pour des filles publiques. Par ailleurs, donc ça c'est la première différence entre les deux stigmates et entre les deux groupes de sexe. Par ailleurs, alors que les garçons doivent faire la preuve qu'ils ne sont pas des PD, c'est-à-dire qu'ils ont leur place dans le groupe de sexe dominant, qu'ils sont à la hauteur de leur groupe, les filles sont a priori suspectes d'être toutes des putes, selon l'adage connu et très souvent répété sur mes terrains, du fait de leur position inévitablement inférieure dans la classification des groupes de sexe. Donc le stigmate, dans le premier cas, est individuel et sert de rappel à l'ordre pour l'ensemble du groupe des garçons. Il dessine le périmètre du masculin par l'exclusion de quelques-uns. Dans le deuxième cas, le stigmate est collectif. Il constitue un des ressorts du féminin et les filles doivent individuellement faire la preuve de leur capacité à lutter contre une faiblesse morale supposée constitutive de leur sexe. C'est un mécanisme que j'ai retrouvé lorsque je me suis penchée plus récemment sur l'usage que les filles de mon deuxième terrain, donc en milieu rural, faisaient de l'insulte sexiste envers d'autres filles. Constatant que ce recours par les filles à l'insulte sexuelle et sexiste était très présent dans mon matériau, je me suis demandé ce que font des filles qui partagent presque tout, le même groupe de sexe, des pratiques érotiques proches, le même âge, la vie en milieu rural, l'appartenance au groupe majoritaire du point de vue de la race, qu'est-ce qu'elles font quand elles se qualifient de pute ou de salope, ou lorsqu'elles qualifient ainsi d'autres femmes et d'autres filles de leur entourage. J'ai repéré trois usages de l'insulte sexiste entre filles, recourant à un lexique sexuel, qui permettent de mettre au jour des façons dont s'incarnent des formes de communauté et des clivages parmi ces filles très semblables. Le premier de ces usages de l'insulte est un usage collectif. Les filles créent de la communauté d'âge, de classe et de genre en insultant ensemble, de façon collective, une femme adulte qui les domine. Les femmes professeurs, par exemple, sont une cible fréquente des filles scolarisées. Celles que j'ai rencontrées n'ont pas manqué sur mon deuxième terrain de relater diverses situations où elles cherchaient en groupe à humilier une enseignante en faisant des sous-entendus sur sa sexualité. En général, la prof était une coincée qui cachait une sexualité dévergondée. Et donc on imaginait évidemment tous ses exploits sexuels avec tel ou tel homme de l'entourage. Ces filles pouvaient passer des mercredis après-midi ensemble à rire aux éclats sur ce sujet. L'insulte est jubilatoire parce qu'elle dévalue un éthos de genre réservé incarné par les femmes professeurs qui est hautement valorisé dans un environnement scolaire qui les dévalorise elles, dans lequel elles sont continuellement perçues comme indécentes et vulgaires. Elles sont à réformer pour entrer sur le marché de l'emploi et notamment les emplois de service pour lesquels elles sont majoritairement destinées, selon des jugements qui sont autant des jugements de genre que des jugements de classe. Dans le rire et l'obscénité, elle bouscule dès lors trois ordres hiérarchiques. D'une part, elle piétine les normes de présentation de soi attendues d'elle par leurs enseignantes, puis par leurs patrons, éventuellement leurs patronnes, et plus généralement tout adulte représentant l'institution scolaire, donc ou les emplois auxquels elles sont vouées. D'autre part, elle se joue des normes de genre qui, quel que soit le milieu social, opposent les putes aux filles bien. Enfin, elle défie le rapport d'âge qui leur intime de ne pas entrer en sexualité trop tôt. En accédant au langage sexuel obscène, elles se font grandes et sans délecte. L'énonciation de l'insulte sexuelle condense ainsi tout ce qui les lie, leur genre et leur groupe de sexe, leur âge, leur classe, et son effronterie les libère de leurs contraintes quotidiennes et souligne leurs ressources. Ce sont des filles aisément stigmatisées par leur père, leur famille, le milieu professionnel et par l'institution scolaire qui les réprime régulièrement pour des tenues vestimentaires jugées inadéquates, mais elles sont libres de manier le stigmate quand elles sont entre elles et de le retourner. Jeunes, elles sont joyeuses avant toute chose et se doivent de l'être. Le deuxième usage de l'insulte sexuelle par les filles que j'ai repéré sur mon terrain est un usage inter-individuel qui vise à tester la camaraderie. C'est là une pratique sociale qui est plus souvent relevée du côté des garçons, c'est-à-dire insulter l'autre là où ça le fait le plus mal, sans craindre de susciter de riposte, est une façon d'éprouver le lien amical et sa réciprocité. Alors il est possible qu'un tel usage de l'insulte, donc vis-à-vis de proches, soit situé socialement ou qu'il soit en tout cas plus fréquent dans les classes populaires que dans d'autres classes sociales plus policées. Je pourrais vraiment en parler que lorsque j'aurai fini mon terrain dans la bourgeoisie pour travailler l'hypothèse de la variation des conventions de genre en fonction de la classe au sein d'une même génération. Le troisième usage sur lequel je m'appesantirai un petit peu plus de l'insulte sexuelle par les filles est un usage individuel qui résonne directement avec ce que je disais précédemment à propos du stigmate collectif pesant sur les filles. Ce qui m'intéresse, notamment dans l'étude de l'insulte entre filles, c'est qu'elle permet de mettre au jour, dans un groupe social très homogène, du point de vue de la race, de la classe et du genre, d'un fort clivage hiérarchique entre elles malgré tout. Ce clivage repose essentiellement sur les ressources statutaires des filles, qui les exposent diversement en fait à l'insulte, au premier rang desquelles le fait que leur corps soit ou ne soit pas officiellement approprié par un homme ou un garçon, donc un père, un grand frère dans les cités, un petit copain en milieu rural. Elles sont ou non des filles d'un homme présent, qui est là, qui existe, qui est vivant, des petites sœurs ou des petites amies. Sous couvert de dénoncer la transgression sexuelle, l'insulte cite une convention existante pour créer des agents transgresseurs qui n'occupent pas n'importe quelle place dans l'espace de sociabilité locale et sont plus souvent vulnérables parce qu'ils ne réunissent pas les ressources nécessaires pour dissuader la suspicion et l'étiquetage. C'est le cas d'une fille dont me parle Marjorie, 17 ans, qui vit chez ses parents qui sont eux-mêmes en couple. Elle-même forme un couple avec un garçon depuis 6 mois qui est identifié localement. Et elle commente en compagnie de sa meilleure amie, Allison, les photos de la fille dont elle me parle toutes les deux, qui sont sur Facebook. Elle me dit « Une vraie putain. Des photos d'elle en sous-vêtements. Quand son gamin il va être plus grand et qu'il va voir ça, c'est un truc de ouf. » La fille dont elle me parle vit seule à 18 ans et a un enfant. On voit bien là que c'est à la fois la possibilité de traiter n'importe quelle fille de putain, l'insulte étant constitutive de ce qu'être une fille veut dire, et à la fois des inégalités de ressources statutaires qui rendent possible que Marjorie traite de putain, donc cette mère de 18 ans vivant sans homme. C'est là l'une des stratégies dont elle dispose pour se distinguer des filles déjà disgraciées. La fille qui insulte transforme autrui en objet honteux, et de préférence une fille non appropriée. Elle se place elle-même dans une position de pouvoir à l'égard des autres filles, de celle-là en particulier et des autres en général. Le temps d'une conversation entre copines, d'une petite phrase en passant, et ce de façon répétée au cours des mercredis après-midi ou autres soirées festives, elle se rend légitime à décréter l'opprobre, et ce faisant, met l'opprobre à distance. Énoncer l'insulte lui permet aussi de reconduire la fiction selon laquelle ce serait d'abord des actes de dépravation sexuelle que l'étiquetage viendrait sanctionner. Ici, le port de vêtements jugés indécents aux yeux d'un fils devenu grand. Et donc, en contrepoint, des actes de bonne tenue qui feraient barrage à l'opprobre. La même Marjorie s'insurge mollement contre les insultes sexuelles qui pleuvent sur sa meilleure amie Allison, qui vit avec sa mère et sa demi-sœur, sans père ni beau-père. Et en entretien seul à seul avec moi, Marjorie m'explique qu'elle ne souffre pas comme Allison d'une mauvaise réputation, parce qu'elle au moins ne change pas de copain comme de chemise. Or, à ma connaissance, elle a des pratiques sexuelles, amoureuses et festives, très proches de celles d'Allison. Dans sa défense publique molle, quelle que soit son affection pour Allison, qui me semble réelle, et dans ses moments de distinction à l'égard de cette dernière, mais dans son dos, ou lorsqu'elle insulte une fille moins dotée qu'elle et qui ne fait pas partie de sa bande de copines, elle fait porter sur la victime la responsabilité du jugement. En creux, elle s'attribue le mérite de ne pas être discréditée ou de l'être moins que d'autres. En prodiguant l'insulte, Marjorie se distingue donc doublement du stigmate qui pèse sur son groupe de sexe, en s'arrogeant le pouvoir de décréter qui est vertueuse et qui ne l'est pas, et en nourrissant la croyance selon laquelle il appartiendrait à toutes les filles individuellement de pouvoir échapper à la mauvaise réputation. Elle consolide dès lors sa position dominante dans le groupe des filles, en l'invisibilisant, alors même que le jugement imaginaire du fils de la putain devenu grand se répercute dans un jugement omniprésent dans la vie des filles, et qu'elle suppose d'ailleurs souvent que je leur porte. Le risque de se faire insulter est permanent, puisque le stigmate, s'il se matérialise individuellement à certains moments et en fonction de certaines propriétés sociales, est collectif et donc continuellement disponible. Je vais finir très rapidement sur la jeunesse. Comme le disait aussi ce matin Michel Bozon à propos du contrôle de la sexualité des jeunes, pour comprendre en quoi la sexualité constitue une régulation du genre, il est utile de spécifier en quoi cette régulation est particulièrement cruciale dans la jeunesse. Si les normes sexuelles s'imposent dans la vie des individus dès la petite enfance, si la norme hétérosexuelle est à l'œuvre dans les identifications de genre bien avant l'adolescence et se poursuivent bien après, en revanche, l'adolescence constitue un moment particulier durant lequel s'opère pour la majorité l'adolescence ou la jeunesse, bon, je n'entrerai pas dans le distinguo ce soir, durant lequel s'opère pour la majorité des personnes l'entrée dans une pratique sexuelle dite adulte. Et cette entrée, statistiquement établie et largement partagée, a des effets sur la façon dont les classements sexuels constituent les normes de genre à cet âge de la vie. La difficulté pour les jeunes filles réside dans le fait qu'elles se trouvent dans une situation d'entre-deux. Elles ne sont plus des enfants. Et elles entrent donc dans une zone de suspicion concernant leur sexualité. Dans le même temps, elles ne peuvent pas s'appuyer sur les attributs de la féminité vertueuse que l'âge adulte est susceptible de fournir, c'est-à-dire dans certains contextes sociaux, le mariage et partout la maternité et l'inscription dans un couple hétérosexuel cohabitant. Dans le cas des filles des classes populaires, qui sont les filles que j'ai rencontrées sur mes terrains, elles doivent faire aussi avec une suspicion de classe, formulée y compris par des femmes qui les dominent dans les divers espaces sociaux qu'elles habitent. Le recours aux insultes sexuelles s'inscrit dès lors notamment dans un ensemble de ressources pour se distinguer de leur groupe de sexe et pour contrer leur rapport de classe. Je vous remercie.